Parlons réchauffement climatique. Le climat qui, oui, vous le savez, se réchauffe de plus en plus. Puis là, on a une statistique, une donnée qui vient de sortir qui image très, très bien ce réchauffement qui touchera le Québec de façon assez accentuée dans les prochaines années.
Absolument. En fait, il y a une enquête qui a été menée par une quinzaine de chercheurs de l'université ETH à Zurich, en Suisse. L'étude a été faite auprès de 500 grandes villes dans le monde, puis des villes qui sont peuplées de plus d'un million d'habitants. Et on a étudié Montréal. Et ça a donné des conclusions quand même assez marquantes. Pour en discuter avec nous, on a le plaisir d'avoir Alain Webster, qui est professeur titulaire au département d'économie à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Monsieur Webster, bonjour.
Bonjour.
Alors effectivement, la planète se réchauffe et on parle, en ce qui concerne Montréal, qu'en 2050, notre température va être à peu près similaire à celle de Washington, donc une augmentation d'environ 3,2 degrés Celsius.
Et ça, c'est un scénario optimiste. C'est un scénario où on réussit effectivement à contrôler la hausse des émissions de gaz à effet de serre et donc la hausse de la température. Et globalement, ça signifie que la température moyenne à Montréal va augmenter d'environ 3 degrés. Et donc, en hiver, il va faire un peu plus chaud, évidemment. Mm-hmm. Et en été, surtout, au lieu de faire une moyenne en juillet de 25, il va faire une moyenne de 30, ce qui nous ramène à peu près, effectivement, une température moyenne de Washington, là, si on veut imaginer un peu ce genre de choses-là. Mais pour faire un lien avec ce que vous venez de faire comme entrevue auparavant, la bonne nouvelle dans ça, c'est que contrairement à notre dossier personnel, en matière de changement climatique, là, on peut faire des choses, et beaucoup de choses, pour éviter justement que cette catastrophe s'accentue. On y reviendra après sur ce qu'on doit faire.
Oui, mais parce que vous parlez de catastrophe, parce que, à prime abord, là, lorsqu'on dit, tiens, à Montréal, ça va se réchauffer d'environ 3 degrés, souvent les gens vont dire, ah, mais c'est le fun, va faire plus chaud, mais il y a des secteurs sur la planète pour qui cette variation de température peut être atroce, là?
Ben, il y a deux choses. On nous dit dans ces 500 villes qu'on a analysées que près du quart de ces villes vont connaître une température qu'on ne connaît pas présentement. Donc, des niveaux tellement élevés de température que présentement, on ne connaît pas ça. Mais même pour Montréal, l'enjeu, là, ce n'est pas la température moyenne. T'sais, en hiver, qu'il fasse moins 15 ou moins 20, là, globalement, les gens ne vont pas se plaindre énormément, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette température moyenne signifie que les hausses de température, les pics de température, là, les niveaux les plus élevés de canicule, qui sont des choses à probabilité faible, arrivent une fois tous les 50 ans, tous les 100 ans, ben, vont juste devenir de plus en plus fréquents. Et c'est ça qui est embêtant. Ce qui est embêtant, c'est pas que la moyenne soit 30 degrés. C'est lorsque la moyenne est à 30 degrés en juillet, ça signifie que la probabilité que la température atteigne 35 ou 40 degrés pour une période suffisamment longue de canicule, maintenant, ça devient une vraie probabilité et ça va arriver plus fréquemment aux 10 ans ou aux 20 ans. Alors que présentement, c'est presque impossible en matière de statistiques. Ça va arriver une fois tous les 100 ans, là, mais globalement, c'est très, très rare. Et c'est ça qui est embêtant sur la question des changements climatiques. C'est pas la modification de la moyenne. C'est le fait qu'on accentue les canicules, on accentue les extrêmes de température. À titre d'exemple, l'année passée, la canicule qu'on a observée à Montréal, et déjà, c'est pas très élevé comme température, mais on a conclu que c'était une cause directe d'environ 100 décès dans l'année. Donc, même pour Montréal, cette situation n'est pas quelque chose de négligeable. Et si on oublie un petit peu le volet santé humaine, parce qu'il y a des impacts, évidemment, sur plusieurs facteurs en matière de santé, ben on se dit, Washington, c'est sympathique, c'est joli, mais pas beaucoup d'épinettes noires à Washington, hein, pas beaucoup de sapins comme on se trouve au Québec, ce qui fait que l'écosystème dans lequel on a toujours vécu, ben on lui amène une modification de température à un degré extrêmement rapide, à une vitesse très, très vite. Et cet écosystème va peu ou mal s'adapter à ces changements. Et ça aussi, c'est catastrophique en matière d'impact sur notre environnement naturel, parce que l'écosystème du Québec, du nord, du sud du Québec, n'est pas le même qu'à Washington, et on va pourtant vivre dans un climat qui va s'y rapprocher. Donc, ça va perturber l'ensemble de ces cycles en matière de forêt, en matière d'eau, et donc des impacts environnementaux et par la famille sociaux qui vont être importants. Et c'est ça qui est globalement préoccupant, la vitesse de ces changements, pas le fait qu'il va faire 30 degrés une journée.
Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place, finalement, là, pour éviter le plus possible les effets les plus catastrophiques?
Ben, vous savez, l'ensemble des organismes internationaux, les Nations unies, le secrétaire général des Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé, l'OCDE, la Banque mondiale, prenez-les tous. Les gouvernements français, anglais disent tous la même chose. La première chose à mettre en place pour éviter que ces gaz à effet de serre augmentent trop rapidement, c'est de mettre un prix sur le carbone, mettre une tarification sur les gaz à effet de serre. C'est l'instrument le plus efficace. Alors qu'au Canada,
vous devez être un peu découragé de voir ce qui se passe au Canada actuellement.
Ben, c'est effrayant de voir qu'on ose prétendre faire ce débat en se disant que ça serait vrai pour la planète entière, mais paraît-il, pour je ne sais pas trop quel mystère, ça ne serait pas vrai au Canada que cette idée de tarification ne fonctionnerait pas. C'est pour le moins légèrement embêtant. Et donc, on entend un discours de gouvernement climato-sceptique, que ce soit celui de Ford en Ontario ou de Kelly en Alberta, évidemment, qui viennent nous dire que globalement, on n'a pas besoin d'intervenir rapidement sur ce type de tarification, alors qu'on vit dans une situation qui est pour le moins préoccupante. Là. Tous les scénarios nous disent qu'on doit, pour maintenir ce climat avec une température pas trop élevée, là, genre en moyenne de 2 degrés sur la planète, donc ça signifie à Montréal autour de 3 degrés et demi, on va être plus affecté. Ben, on nous dit que d'ici 2030, il faut couper les émissions d'environ 45 % sur la planète. Et d'ici 2050, il faudrait que plusieurs pays occidentaux, ce que la France a déjà fait et ce que l'Angleterre a déjà fait, se fixent comme objectif une neutralité en carbone. Disons que plusieurs gouvernements provinciaux au Canada et plusieurs politiciens fédéraux n'ont pas tout à fait cette vision-là. Il y a quelque chose qui leur manque là, dans leur analyse climatique, c'est clair. Ouais, à moins, bien sûr, qu'ils soient trop intéressés par l'augmentation du prix du pétrole et des revenus qui vont découler pour faire abstraction de ces enjeux en matière de changement climatique. Mais on est au Canada dans un enjeu qui est passionnant. On a quelques années pour effectuer cette bonne trajectoire en matière de conversion vers une économie décarbonisée. Et puis, si on ne fait pas les bons choix, ben on va en subir des conséquences également en termes économiques, parce que les autres pays sont en train de faire cette transition-là. Donc, il faut donc la faire adéquatement.
Mais heureusement, il y a une amélioration. On ne veut pas, l'environnement est davantage un enjeu en politique que ce ne fut le cas dans les dernières années. On a quand même noté une amélioration de ce côté-là. Au moins, on en parle. C'est un premier pas.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mes premiers discours sur le prix d'un carbone, il y a 30 ans, là, j'avais l'air d'un extraterrestre. Donc, maintenant, c'est un sujet qui est le moins qu'on peut se dire d'actualité, c'est vrai. Mais entre l'actualité et puis la volonté ferme de pouvoir mettre en place une stratégie, il y a des écarts, c'est effrayant. On arrive d'un conseil là, des premiers ministres, on aurait dû travailler sur comment globalement mettre en place une tarification du carbone à l'échelle canadienne, alors que les 4-5 nouveaux premiers ministres élus sous la bannière conservatrice à l'échelle canadienne dans les provinces, milite activement dans une stratégie changement climatique avec un seul slogan, Scrap the Carbon Tax. Ça n'a rien à voir avec la lutte au changement climatique. C'est un discours étonnant parce que lorsqu'on regarde à l'échelle internationale, ces enjeux-là, ce n'est pas des enjeux de droite, de gauche, de libéral, de conservateur. C'est est-ce que le gouvernement décide d'agir efficacement en matière de lutte au changement climatique et des gouvernements conservateurs, comme en Angleterre, ont fait ce choix de mettre en place des politiques agressives, ce que le Canada ne fait pas du tout. Et résultat, dans tous les pays occidentaux, on a l'un des pires bilans sur la planète en matière de croissance des émissions de gaz à effet de serre, pire que les Américains. C'est quand même assez étonnant.
Ah, c'est très étonnant. Monsieur Webster, souhaitons que les politiciens vous entendent.
Merci.
Alain Webster, professeur titulaire, département d'économie de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup.